Bonjour à tous. Voici quelles sont les activités principales de notre invité de ce jour. Enregistrer les musiciens en live ou en studio. Optimiser l'emplacement des micros et le volume sonore de chaque instrument lors des concerts. Faire le mixage après enregistrement. Je vous propose donc une rencontre avec Stéphane Lou, ingénieur du son. Voici comment Stéphane Lou en est venu à s'intéresser à ce domaine. En premier lieu, il se passionne pour la musique dès son enfance, jouant très tôt d'un instrument. Arrivé à l'âge adulte, il fait une école d'ingénieur du son à Lausanne, puis il acquiert, en compagnie de quelques amis, un studio d'enregistrement en Valais, près de Martigny. Voici donc ses interviews réalisées en novembre 2019. Stéphane Lou, on va commencer, si vous le voulez bien, par énumérer les différentes activités qui sont les vôtres, la première étant l'enregistrement. Vous enregistrez donc des musiciens dans vos studios. Est-ce que vous le faites également pour des prestations en live ?
Oui, tout à fait. On est équipé pour pouvoir affronter un peu n'importe quelle situation ou des fois des grands ensembles ont besoin de plus de place que notre studio. Alors on peut se déplacer et puis enregistrer 32 pistes dans n'importe quel lieu. Pour autant qu'il y ait de l'électricité, ça devrait fonctionner, ouais. En concert aussi, on peut enregistrer les concerts en général directement dans les consoles. Ça peut nous arriver de devoir les mixer ici pour que les groupes puissent utiliser ça pour leur promotion et puis montrer comment ils jouent en concert, quoi.
Une autre de vos activités, c'est la sonorisation. De quoi il s'agit?
La sonorisation, justement, en concert, on va se retrouver avec différents musiciens sur scène où chacun aura besoin d'un microphone, voire de plusieurs. Le batteur, il aura, par exemple, un microphone sur chaque élément presque de sa batterie, sur sa grosse caisse, sa caisse claire.
Et justement, c'est vous qui placez ces micros, etc., voilà. Selon les desiderata du groupe, etc.
Voilà, et puis après, on se retrouve avec jusqu'à 20 ou 30 pistes de chaque élément de la musique, et puis on doit le remettre ensemble, lui appliquer les réglages qui sont le mieux pour que ça redonne de la musique après dans les haut-parleurs.
Très bien, la prochaine prestation que vous offrez, c'est le mixage ou mix. De quoi s'agit-il ?
Alors là, c'est comme on le fait en live directement le jour même, où on équilibre la musique et ses pistes. Là, ça se passe en studio où on va prendre plus de temps pour lécher un peu l'enregistrement, essayer de rendre, donner le meilleur rendu possible à ce qu'on a enregistré.
Donc, par exemple, vous pouvez en studio, le mixage, il s'agit par exemple en studio de mettre une guitare plus fort, moins fort, ou des choses comme ça,
ouais,
par rapport aux autres guitares, aux autres instruments.
Tout à fait, de trouver les fréquences où on va mettre les instruments, comment les assembler pour que ce soit le plus plaisant à l'écoute. En sachant qu'on peut toujours faire mieux, puis que c'est un peu, un travail sans fin. On pense qu'on améliore, puis après, ça revient moins bien. C'est un travail intéressant.
C'est un travail d'orfèvre qui peut être infini, qui peut se passer. Il faut savoir s'arrêter un moment.
Il faut savoir s'arrêter, ouais.
Une autre de vos prestations, c'est le mastering. De quoi il s'agit ?
Oui, alors c'est pas moi le spécialiste du mastering, même si j'en fais un petit peu. Moi, je fais plutôt enregistrement et mixage, mais le mastering, c'est la personne qui vient faire l'oreille externe, justement, sur le travail du mix. Il va durer jusqu'à une journée pour un morceau, suivant la complexité des morceaux et du nombre de pistes qu'ils ont. Et puis le mastering, lui, va faire en une journée tout l'album, par exemple. S'il y a 10-12 morceaux, il va prendre tous mes mix et puis essayer de les mettre bien ensemble. Que quand on passe d'une plage à l'autre sur son disque, qu'on n'ait pas des grosses différences de son.
Par exemple, que le volume sonore soit constant, etc.
Le mastering est un peu plus, mathématique, technique, et le mix est plus artistique quelque part. Le mastering va être un peu plus à se dire, il faut que ça passe bien sur tous les supports où on écoute, ça va améliorer ça aussi. Ou après le mix, des fois, on va écouter un endroit, on va se dire, il y a peut-être un peu trop de ci, puis un autre, on va se dire, finalement, il n'y en a pas trop. Et puis le mastering va donner un peu plus l'impression que c'est partout pareil sur chaque écoute possible, quoi.
Je crois qu'il est de plus en plus fréquent que les gens enregistre plusieurs instruments, mais pas au même endroit, et qu'il vous envoie, par exemple, est-ce que ça vous arrive à vous, qu'il vous envoie chacun son instrument, et puis que vous faites le mixage final?
Oui, ça peut arriver aussi où des groupes aiment bien tout à coup pouvoir prendre le temps et puis s'enregistrer sur un mois ou même plus et puis bien chercher l'expression qu'ils ont de jouer, quoi, de trouver la prise parfaite. Et puis c'est vrai que certains s'équipent de choses tout à fait correctes. Des fois, ils nous demandent qu'est-ce qu'il faudrait améliorer et puis qu'est-ce qu'on aurait besoin pour le mixer après. Et puis ça donne cette chance-là parce qu'ils ne pourraient pas louer le studio pendant un mois, ça coûterait beaucoup trop cher, effectivement. Et puis là, ils ont leur local de répète tout à coup qui est en studio d'enregistrement à peu près, ouais.
Stéphane Lou, si vous voulez bien, on va maintenant voir pourquoi vous avez embrassé cette profession. Est-ce qu'il y a un événement particulier qui vous a lancé dans cette direction?
À la base, j'étais depuis tout petit avant piano droit dans la chambre de mes parents. Puis ma mère, qui avait fait des études de musique, mais depuis tout petit, elle me disait: mais t'as trouvé où la mélodie qui est là? Tu l'as lu où? Puis je dis: mais ça vient comme ça. Et puis elle me dit: mais moi j'ai fait 20 ans de musique et puis j'ai jamais inventé une mélodie, je fais que de lire des partitions. Puis je me suis dit: ah bah tiens, peut-être que c'est quelque chose pour moi la musique. Puis après j'ai fait de la guitare, du clavier un peu, enfin surtout plus de guitare. Et puis je me suis retrouvé, je crois à l'armée, c'était où je pensais être inscrit en médecine. Et j'avais en fait pas envoyé la confirmation d'inscription. Et puis je me suis dit: tiens, j'ai quand même... L'armée, elle finissait, je crois, mois d'octobre, je sais pas. Je me suis dit: je vais quand même pas rien faire toute l'année, là. Et puis, j'ai un ami, le lendemain, qui me dit: ah, mais tu sais, il y a une école de musique à Lausanne qui a l'air intéressante. Puis, j'étais voir, puis j'ai tout de suite vu le qu'il y avait aussi pour le son. Et puis, sans beaucoup avoir réfléchi avant, je me suis dit: ah, mais je comprends rien, mes appareils pour la guitare, moi j'avais des appareils d'effet qui avaient beaucoup de possibilités dedans, mais je connaissais pas grand chose. Et puis, ça m'a un petit peu titillé. Et puis, je me suis dit: ça y est, je crois que j'ai trouvé ce que je vais faire l'année prochaine, quoi. Et puis, après, c'est tombé dedans, quoi. Je voyais que ça m'allait bien, quoi. J'ai tout de suite eu plutôt le feeling pour aller dans ce domaine-là.
Donc vous avez fait cette école sur combien d'années?
J'ai fait une année préparatoire, puis après une année et demie, le brevet technicien du son, le CFMS.
Vous avez travaillé au Festival Off de Montreux. Qu'est-ce que vous y avez fait?
Alors c'était juste après l'école de son, où c'était un peu mettre le pied à l'étrier, où ils pensaient avoir besoin de personne, puis ils m'ont dit: ah, viens traîner par là quand même. Et puis c'est un de mes professeurs qui s'occupait d'une scène, et puis il a vu que les gens qui étaient engagés ne connaissaient pas le matériel sur scène, et puis il m'a tout de suite dit: attends, je t'engage, je te donne un badge, il faut que tu branches les micros. Et puis c'est comme ça que j'ai fait 2-3 ans là-bas, un peu en apprentissage.
Aujourd'hui, vous œuvrez dans ce magnifique studio à Charratte auprès de Martigny. Est-ce que vous avez démarré dans cette aventure quand le studio est né?
Oui, tout à fait. On était deux amis. C'était un groupe valaisan avec qui je travaillais en live qui me fait. Donc, un des gars du groupe enregistrait des démos des groupes locaux, mais il n'avait pas le temps de les mixer. Puis alors il me dit: ah, mais viens chez nous à Sion, tu mixes ça ici. Et puis tout à coup il dit: ah, mais j'ai entendu parler qu'il y avait ce studio à Chara. Et puis on était que les deux à la base. Et puis il nous fallait quand même un certain montant de fonds propres. Puis on s'est trouvé 3 autres amis, puis on s'est associé, puis on a réussi à avoir le minimum qu'il fallait pour pouvoir le racheter. Et puis maintenant, après une quinzaine d'années, on arrive au bout à peu près justement de l'achat du studio. Alors on est bien contents. En plus, on est toujours amis et toujours associés ici. Ouais.
Pour qu'on ait un ordre d'idée, combien peut coûter une de vos prestations, par exemple, une demi-journée ou une journée de travail? Comment est-ce que vous facturez?
Alors le prix à l'heure, c'est 80 francs. Et puis la journée, elle est à 500 francs. Et puis, à partir de là, en général, on arrive à se faire une idée. Mais c'est vrai que ça peut prendre du simple au triple, voire au quadruple suivant les groupes et la complexité des pistes, pas le prix de la journée, mais le temps que ça prend pour faire tout le processus, pour faire d'un coup quatre morceaux, il y a des groupes qui vont vraiment mettre deux fois le temps que d'autres groupes, quoi. Et puis c'est très dur à dire, ça va vous coûter tant de faire un enregistrement. Si vous arrivez et que vous avez une bande son et que vous voulez chanter par-dessus, en 1 heure ou 2, vous avez pu faire peut-être plusieurs morceaux et en mix. Et puis si vous avez justement comme ce qu'on disait avant, 6 musiciens avec plein de bazar, là ça devient bien plus ça consomme plus de temps, ouais.
Est-ce que vous pourriez dire combien il y a de studios similaires en Suisse romande? Est-ce que vous avez une idée?
J'ai une idée vague, mais je dirais une vingtaine peut-être.
On va peut-être maintenant revenir à la sonorisation. On va prendre un exemple concret. Comment ça se passe, par exemple, quand vous avez une soirée, donc quand vous avez un concert enregistré, est-ce que vous recevez des instructions à l'avance déjà du groupe pour savoir ce qu'ils veulent ou est-ce que c'est seulement le jour même qu'ils vous en font part?
Alors non, en général, on reçoit toujours bien avant les demandes des groupes. Et puis, ils n'ont pas seulement pour le son, en général, ils ont des exigences aussi d'avoir certaines boissons ou pour avoir la nourriture et tout ça. Et puis, dans le son, ils nous donnent déjà la liste des pistes qu'on devra rentrer dans la table de mix. Et puis ils nous disent en général qu'est-ce qu'on doit leur fournir comme type de micro, et puis de pied de micro, et puis aussi de système son, de retour, s'ils ont des retours dans les oreilles directement ou s'ils ont des retours avec des haut-parleurs. Du coup, en général, on sait à peu près à quoi s'attendre quand ils arrivent, mais malheureusement, souvent, ils arrivent et ils disent: Ah, mais c'est pas la dernière liste que vous avez reçue. Et puis, des fois, j'ai peur de préparer trop en avance parce que ça m'arrivait plein de fois où il faut tout recommencer parce qu'on pensait bien faire, mais en fait, ils ont envoyé la fausse fiche. Mais les groupes ont une sorte de standard en général où c'est vrai qu'on a un set de matériel de base qui couvre le 90% facile des groupes de ce qu'ils ont besoin comme type de micro. Ouais.
Si le concert est par exemple à 20 h, vous arrivez à quelle heure en général?
Ouais, ça peut être 14, 15 h, 16 h, ça dépend le nombre de groupes qui va jouer. Parce qu'on va faire des soundcheck avec le groupe qui joue en dernier, en premier. Et puis en général, ça prend 1 heure. Enfin, on doit laisser. Ils demandent ça, les groupes aussi, quand je dois accueillir leurs techniciens du son ou moi leur faire le son. Ils demandent toujours au moins 1 heure pour le soundcheck. Alors, le temps qu'ils s'installent aussi, suivant le bazar qu'ils ont, ça prend 1 heure et demie. Après, il faut des fois qu'ils revident la scène parce qu'ils arrivent sur. Les groupes n'arrivent pas à
Donc là, vous
tous mettre leur
parlez
matériel.
d'une soirée où il y a plusieurs groupes, hein,
Ouais. Donc, en général, il y a toujours deux,
évidemment.
trois groupes dans une soirée. Suivant le matériel qu'ils vont utiliser, où il faut tout enlever sur scène pour remettre l'autre groupe, ça peut prendre ouais, 4 5 heures facilement les soundcheck de trois groupes et les changements. Ouais, c'est souvent quand même des journées qui commencent à 14 15 heures puis qui finissent à 2 heures du matin.
Pendant le soundcheck, évidemment, vous pouvez vraiment voir comment vont se passer les choses. Mais pendant le concert, est-ce que vous pouvez aussi intervenir techniquement? Est-ce que tout à coup, un guitariste va vous faire un signe ou va vous dire de changer encore quelque chose ou...
Alors, pendant le concert, moi, je vais suivre mon instinct et mon feeling, et puis je vais essayer de penser à la place du groupe. Des fois, si le guitariste, par exemple, il fait un solo, puis qu'on n'entend rien, je vais vite le monter pendant qu'il fait le solo. Enfin, je vais suivre, j'aurai mes doigts un peu sur toutes les pistes en même temps, et puis je vais vraiment me veiller à ce que l'équilibre me semble cohérent. Et puis justement, il faut faire souvent du traitement dans le son, plus bouger les faders pour qu'on ait l'impression que c'est normal.
De toute façon, pour le même groupe, vous faites des changements pendant le concert, selon les morceaux, évidemment également. S'il y a un morceau qui est plus fort, qui est selon le rythme et le style de la chanson.
Ouais, je vais essayer de caler mon son au soundcheck pour que j'ai le moins de changements à faire, mais après justement, je vais voir comment la musique elle vient. Souvent, je connais pas la musique qu'ils font le groupe non plus. Alors, je dois essayer d'imaginer qu'est-ce qu'ils aimeraient le mieux, qu'est-ce qui convient le mieux au public aussi. Je suis aussi pas mal être sensible au public. Si je sens qu'ils n'ont pas besoin que ce soit trop fort, je vais faire attention à pas trop être méchant. Et puis, certains publics aiment mieux que ce soit plus fort et ont trop peur que ce soit pas assez fort. Enfin, c'est de trouver le bon réglage quoi, ouais, pour le public qu'elle a.
On imagine par exemple qu'un public qui va écouter du métal voudra un son très fort, un volume très fort.
Pas forcément. Alors, puis d'ailleurs, au métal, des fois, c'est fort à cause des cymbales qui sont extrêmement forts. Nous, on essaie d'équilibrer le reste de la musique avec ça. Et puis, on se retrouve à un volume sonore qui est impressionnant. Mais je pense que l'amateur de métal n'est pas forcément celui qui aime. Il veut juste qu'il y ait un peu la patate. Mais maintenant, c'est aussi changer un peu les mœurs, je pense, depuis que la loi est devenue un peu plus stricte avec ça. Je pense que dans les années 90, c'était facilement à 105, 110 décibels dans les grandes salles en Suisse romande.
Alors que légalement, le maximum est à combien?
Il est à 96, voire 100 décibels sous autorisation.
Et justement, est-ce qu'il y a fréquemment des fonctionnaires qui viennent vérifier si le niveau sonore est pas trop fort?
On a plus de chance en Valais que dans le canton de Vaud pour ça, parce qu'ils sont venus vérifier chaque fois qu'en dehors de la salle, il n'y ait pas trop de bruit, qu'il n'y ait pas plus que 90 décibels, je crois. Puis ils étaient chaque fois contents. Bon, on fait attention, on mesure, et puis on fait tant qu'on peut, le mieux qu'on peut pour que ça reste dans les normes, quoi. Mais justement, des fois, des groupes sont durs à contrôler, parce que c'est vrai qu'un batteur, si on met un micro de décibels devant lui, il va faire 103 décibels sans le moindre haut-parleur. Et puis nous, on doit faire après un son qui est moins fort que ça avec les haut-parleurs. C'est quelque part un peu
C'est plus
paradoxal.
compliqué que le contraire. C'est un
Ouais.
peu plus, on risque de perdre un peu en qualité de son.
Ouais, si on veut vraiment baisser, alors on va pas entendre les instruments. Et puis nous, notre but, c'est qu'on entende quelque chose d'équilibré comme de la musique, quoi. Et puis on doit se battre des fois avec les décibels, mais on peut penser peut-être qu'on est des fous et qu'on veut mettre trop fort des fois, mais c'est plus par souci justement artistique en fait qu'on entende tout comme il faut, quoi. Puis bon, il faut que le son, je trouve, en concert, il fasse un peu quand même d'impression sur le corps, comment dire. Il faut qu'on le sente un petit peu physiquement, je trouve, pour que ça fonctionne.
On va maintenant parler de l'après-concert. Est-ce que d'habitude vous faites un petit débriefing?
Avec le groupe, ouais, en général, j'aime bien toujours leur demander si ça a été pour eux, si ils s'entendaient bien sur scène, et si c'était agréable pour eux. Et puis, c'est une des premières choses après le public qui me soucie, ils sont moins sur scène. Mais quand même, si ils sont pas en bonne condition sur scène, ils vont donner un moins bon concert. Alors, c'est aussi très important. Et puis, bon, en général, ils sont bien contents. Et puis, déjà, à partir de là, ça fait un échange un peu sympa. Après, en général, ils courent pour parler au public. Alors, le temps que je démonte les micros, des fois, ils ont un peu disparu, on va dire.
Vous venez de dire qu'en général, ça se passe assez bien lorsque vous discutez par après, mais est-ce que de temps en temps, quand même, si le concert a pas bien été, vous avez l'impression que le groupe met la faute sur vous, la technique, puis si le concert a bien été, ben, on vous remercie à peine. Est-ce que vous avez parfois cette impression
Oui, ça peut être un peu quelque chose qui arrive en général. Effectivement, moi j'ai assez de chance avec ça, mais c'est vrai que ils vont des fois aussi peut-être se crisper un peu s'ils sentent la technique, elle n'est pas trop fiable. Alors ils peuvent un peu parler comme ça, quoi. Mais en général, c'est plutôt autre chose qui se passe presque, c'est que tout à coup, les groupes pensent qu'ils ont une mauvaise idée d'eux-mêmes, ils pensent qu'ils ont fait une mauvaise prestation, peu importe le son, alors qu'en fait c'était très bien. Puis il faut leur remonter le moral, leur dire mais non, mais. Puis ils vont dire ah, mais on sait jouer mieux que ça. Et puis des fois, ils ont une mauvaise idée de ce qu'on a perçu, parce que d'un coup ça pouvait être magique et les gens sont difficiles avec eux-mêmes. Et puis des fois, il faut presque les réconforter un peu, ouais. C'est vrai que c'est un peu un truc que je me disais qui était ingrat dans cette profession où si tout va bien, c'est normal. Et puis s'il y a des problèmes, ils vont tous te dire ah, voilà, c'est quoi ces sifflements dans les micros là? C'est forcément pour t'apoir après, mais c'est le charme du métier aussi. Hein.
Est-ce que vous avez un concert qui vous a laissé vraiment un souvenir mémorable? Est-ce qu'il y en a un plus qu'un autre?
Ben, c'était ce concert Sepultura l'année passée, qui est un groupe de métal brésilien, qui avait, je sais pas, 35 ans de carrière, puis qui jouait comme des enfants de 16 ans. Ils avaient un plaisir à jouer, j'ai trouvé magnifique. Puis moi, j'écoutais ça justement quand j'avais 16 ans, alors j'ai revécu avec nostalgie leurs morceaux. Et puis ça, c'est un de ceux qui m'avait flashé. Après, artistiquement, il y en a eu des très beaux aussi, où j'aurais pas envie d'en citer un, parce qu'il y en a plein qui m'ont bien parlé. Mais c'est un peu le highlight, celui de Sepultura.
Et puis à l'inverse, est-ce qu'il y a eu une fois un problème technique particulier qui vraiment a fait que tout a foiré ou...
Moi, je me rappelle une fois de gens qui chantaient quand même vachement faux, et puis on se disait, mais il n'y a personne qui leur a dit. Je sais pas, il y a des fois les gens n'ont pas le courage de dire aux chanteurs, je pense qu'en fait, qu'ils chantent tout faux. Ou après, au son, on ne peut pas faire grand-chose, effectivement. Enfin, en tout cas, en live. Après, en studio, on peut faire des miracles, mais en live, c'est un peu plus dur. Surtout si on n'a pas, comment dire, si la personne arrive, puis on n'a pas anticipé. C'est vraiment compliqué de corriger la voix en live.
Mais un problème technique, je ne sais pas, l'électricité qui marche, qui tout à coup foire ou autre chose, vous n'avez pas eu cette malchance.
Ou alors ça, quand même, ça peut arriver souvent, où là, effectivement, on va se faire reprocher que ça marche pas, on va être très stressé, on va lui dire ah, ça marche pas, ça marche pas. Puis on arrive, puis on voit que le jack est juste sorti, qu'ils ont mal branché leur guitare, ou c'est souvent un truc comme ça à la fin. Ou c'est nous aussi, hein. On fait aussi des erreurs, faut pas déconner non plus.
Une panne d'électricité générale, ça ne vous est pas
Ouais, tout
arrivé.
à coup des choses absurdes, quelque chose qui fonctionnait très bien au début du concert qui fonctionne plus, puis il faut vite trouver la réponse. Puis ça peut aller depuis la guitare ou l'instrument au câble, comment dire, à l'ampli. Il y a toute la chaîne à remonter. Après, ça peut être le câble du micro, le micro, jusqu'à la fin de la table de mix, comprendre pourquoi on n'a pas de son.
Stéphane Lou, ça fait maintenant combien d'années que vous exercez cette profession?
Ben ça fait 21 ans, je crois, à peu près, ça doit être ça.
Bien. Et durant toutes ces années, est-ce que vous avez pu faire bouillir la marmite, en d'autres termes, est-ce que vous avez réussi à en vivre de cette activité?
Oui, alors bon, heureusement, j'ai pas des trop grands besoins de consommation de toutes les choses chères que maintenant les gens ont
Un train
besoin.
de vie, pas trop.
Voilà, j'ai une petite voiture, je peux, comment dire, même mon truc pour écouter la musique à la maison, il est tout pourri, il ne vaut pas grand-chose alors que c'est mon métier. Ça me va bien comme ça, en fait. Mais effectivement, certaines personnes vont se dire que c'est pas possible. Ma mère, elle dit que c'est un métier de crève la faim. Elle n'a pas totalement tort, mais moi, je trouve que ça vaut mieux d'être heureux, épanoui, avec moins d'argent, et puis travailler comme une passion. Mais justement, je m'étais dit que je vais tout le temps travailler à la ferme quand j'étais petit. Je me disais, mais si c'est ça le travail, il faut que je fasse autre chose. Et puis j'ai vu que je pouvais faire tout autant que les heures que je faisais à la ferme, mais dans quelque chose qui me passionne, c'est comme si c'était pas du travail presque. Il y a des petits pourcentages où on a l'impression qu'on fait plus le fonctionnaire, mais en gros, là, je suis assez souvent dans quelque chose d'artistique. Ça me va très bien. D'ailleurs, j'ai presque la peine à faire encore assez de musique pour moi, parce que ça me remplit déjà bien d'artistique de faire dans le son, quoi.
C'est ainsi que se termine cette interview. Il me reste à remercier Stéphane Lou, ainsi que toutes nos auditrices et tous nos auditeurs. À bientôt.